pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Ce n'est pas une réforme d'économie, mais de prospérité et d'activité. Alors d'après vous, qui a dit ça? J'entends les auditeurs auditrices qui trépignent, mais qui a dit ça? Eh bien c'est Gabriel Attal, dans une interview qu'il avait accordée à la Tribune du Dimanche, un journal vespéral un peu économique, donc le 25 mai. À laquelle il a réservé ses annonces sur la réforme de l'assurance chômage. Car en effet, le gouvernement compte réaliser des économies en ponctionnant 12 milliards d'euros à l'UNEDIC. Donc l'UNEDIC, il est chargé de la gestion de l'assurance chômage en coopération avec France Travail pour la période 2023-2026. Le ministère du Travail a affirmé attendre 3,6 milliards d'économies par année pleine, soit 3 fois plus que lors de la grande réforme du chômage de 2019. Voilà, aujourd'hui, donc, le thème de cette émission, c'est la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et on va en parler avec notre invité qui va se présenter.
Oui, bonjour. Donc, je suis François, à la FSU Emploi, donc salarié à France Travail. Voilà, j'ai embauché la NPE, hein, pour recontextualiser un petit peu. Les choses ont bien évolué. Et alors déjà, j'aimerais introduire nos échanges. Je pense que dans une émission d'une telle qualité, hein, cher Nadia, cher Joël, j'aimerais qu'on évite de céder au Gabriel Attal bashing. Hein, je vous rappelle que l'objectif, tout de même, Gabriel Attal nous rappelle que si nous ne faisons pas cette réforme, nous risquons de tomber en panne sur la route du plein emploi. Est-ce que vous avez envie de tomber en panne sur la route du plein emploi?
Non, Joël, Nadia, voilà. Non, on est vraiment, on est en dessous de tout là.
Donc voilà, au moins la réponse est claire. Et alors par contre, effectivement, ce qui quand même est assez fascinant avec ce projet de réforme, c'est que quels que soient les économistes qui s'expriment sur le sujet, de droite, de gauche, et jusqu'aux administrations même du gouvernement, on nous explique que cette réforme ne va pas spécialement faire avancer les choses. C'est quand même assez fascinant. Alors bon, en plus, il y a toujours, hein, à chaque fois que vous avez la gentillesse de m'inviter, on revient toujours un petit peu sur ces chiffres du chômage qui sont censés baisser, évoluer. Bon, bah, globalement, c'est toujours un petit peu le même sketch. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, parfois, ça évolue un petit peu, mais on rappelle que nous sommes toujours, toutes catégories confondues, à donc 5 700 000 chômeurs. Hein. Mm-hmm. Donc là, c'est toutes catégories confondues, mais c'est quand même 5 700 000 personnes inscrites au chômage, hein, inscrites au chômage, et donc dans une situation de précarité qui justifie qu'ils soient inscrits au chômage. Si on ramène ça à la population active, hein, on est à 20% de la population. Hein, donc on peut jouer. Mais alors, au plus fort du chômage, on montait à 6,5 millions. Donc, c'était 25%. Donc, 20%, 25%. Alors, c'est vrai, ça évolue. Hein. Bon, d'un autre côté, vous remarquerez que 5,7 millions, 6,5 millions. Voilà. Alors, il y a quand même une petite différence. Mais effectivement, si on prend un petit peu les différentes réformes depuis 2019, on se rend compte qu'à force d'augmenter la durée d'affiliation et de baisser la durée d'indemnisation, bon, bah, 300 000 personnes exclues du chômage en 2019, hein, mécaniquement, hein, je veux dire, ils sont toujours la même panade, hein, je veux dire. Mais effectivement, ils n'ont plus droit au chômage. Donc, il y en a eu 200 000 en 2023, et là, on attend 300 000 personnes. Donc oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on baisse les chiffres du chômage parce que, effectivement, le chômage baisse, ou est-ce que le chômage baisse parce qu'on vire les gens des chiffres du chômage ? C'est le grand débat, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à voir. D'autant que tout le monde s'accorde à dire qu'en ce moment, le chômage remonte un petit peu. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut nous interroger sur la démarche actuelle.
Alors, puisqu'on parlait d'économie et on a parlé de Pôle emploi et France Travail, ça a coûté combien ce changement, puisqu'on nous parle d'économie, de passer comme ça de Pôle emploi à France Travail?
Oui, il faut faire des économies, donc...
Ça a coûté combien tout ça?
Alors pour l'instant, il y a une grande réorganisation à France Travail. On prévoit 1 ou 2 milliards supplémentaires, mais qui de toute façon seront pris sur les excédents générés par l'UNEDIC. Mais attention, c'est en clair, depuis longtemps, on nous explique que les réformes de l'UNEDIC et de l'indemnisation sont aussi justifiées par la faillite de l'UNEDIC. Sauf que, bon, on sait très bien que ce type de déficit sont politiques, comme la sécurité sociale, mais surtout, il faut savoir que depuis quand même très longtemps maintenant, depuis la création de Pôle emploi plus précisément, une grosse partie du financement de Pôle emploi, à savoir 80% du financement de Pôle emploi, est financée par l'UNEDIC. Donc 11% des recettes de l'UNEDIC qui devraient aller à l'indemnisation des chômeurs va financer le service public de l'emploi qui devrait être de la responsabilité de l'État, si je ne m'abuse. Donc la dette de l'UNEDIC, c'est avant tout aussi la dette de l'État. Et là, effectivement, avec la loi Plein Emploi, le gouvernement prévoit de pouvoir encore aller assécher les recettes de l'UNEDIC en passant jusqu'à 13%. Des recettes de l'UNEDIC. Donc, utiliser les excédents générés par les réformes pour financer ses propres manquements du service public de l'emploi. Service public de l'emploi qui, bien entendu, rend de moins en moins service au public. Encore une fois, j'ai embauché à la NPE, j'ai pu voir la douloureuse évolution. Et France Travail, c'est avant tout une machine pour remettre les gens au travail. Alors quel travail? Je pense qu'on va en parler. Et surtout, derrière, en remettant les gens au travail avec des conditions de salariales dégradées, faire pression plus généralement sur les salaires. Donc là, France Travail a vraiment transformé le service public de l'emploi en officine au service du MEDEF. Et la violence et la brutalité inhérente au projet est de plus en plus décomplexée.
On se disait France Travail, famille, patrie, mais bon. C'était d'autres choses. C'est une autre époque.
C'est un peu ça. Alors, est-ce que là, maintenant, on passe à essayer de comprendre un peu cette nouvelle réforme, puisqu'il y en a eu un certain nombre depuis ces dernières années, et à chaque fois, elle vise à réduire à la fois le temps d'indemnisation, allonger le temps de travail pour pouvoir en bénéficier. Enfin bon, et là, il y a une nouvelle réforme qui est promise pour décembre. Donc, est-ce qu'on peut refaire un tout petit peu le point, une info assez rapide, à la fois sur les précédentes et puis sur cette nouvelle attaque des chômeurs?
Oui, alors, il y a trois grands axes à cette nouvelle réforme. Déjà, deux axes principaux depuis 2019, qui ont été mis en place en 2021, puis en 2023, c'est d'augmenter la durée d'affiliation. C'est-à-dire qu'il faut travailler de plus en plus longtemps, sur une durée de plus en plus réduite, pour pouvoir ouvrir des droits au chômage. Avant, il fallait travailler 4 mois sur 28 mois. Ensuite, il avait fallu travailler 6 mois sur 24 mois. Et maintenant, on va devoir travailler 4 mois 8 mois sur 20 mois. Donc vous imaginez bien qu'on a de moins en moins de possibilités de pouvoir bénéficier du chômage, surtout quand on commence sa vie professionnelle ou quand on est précaire. Puisque 8 mois sur 20 mois, c'est délicat de pouvoir les réaliser. En tout cas, beaucoup plus que 4 mois sur 28 mois.
C'est clair.
Voilà. Et l'autre pendant, c'est de réduire la durée pendant laquelle vous serez indemnisé. Donc avant c'était jusqu'à 24 mois, ensuite en 2023 c'est tombé à 18 mois et maintenant on va tomber à 15 mois.
Okay.
Donc ça de toute façon, on en parlait tout à l'heure et ça exclut, donc cumulé automatiquement, là on avait compté 800 000 globalement demandeurs d'emploi de l'indemnisation. Oui. Et derrière il y avait eu un calcul du salaire journalier de référence, le SJR, puisqu'on prenait en compte les journées non travaillées Alors qu'avant, on prenait que les journées travaillées. Et donc, effectivement, ça a réduit. Globalement, il y a une réduction depuis 2019 de 20% du montant des indemnités.
Qui est, il faut le rappeler, pas énorme pour la majorité des chômeurs.
Oui, non. C'est vraiment pas énorme. Les plus de 50% touchent moins de 900 euros.
Non, mais c'est important de le dire parce le gouvernement essaye tellement d'opposer les travailleurs aux chômeurs avec d'un côté ceux qui travaillent, ceux qui triment, ceux qui se lèvent tôt, etc., contre ceux qui, soi-disant, branleraient rien, feraient rien de leur journée et puis gratteraient largement sur leurs indemnités. On se rend compte quand même que là, on est quand même sur des 800, 900 euros par mois, en sachant le prix des loyers, etc. Je veux dire, c'est juste de la survie, quoi.
Et il y a aussi cette arnaque intellectuelle qui revient aussi en ce moment, qui est de dire qu'il faut faire en sorte que le travail paye.
Ah oui.
Comme si on avait organisé une assurance chômage qui permettrait de se la couler douce aux Bahamas avec l'assurance chômage, alors qu'en travaillant... Alors, bien sûr, maintenant, avec l'offre raisonnable d'emploi, l'objectif, c'est de toute façon faire pression sur les salaires et d'imposer n'importe quel emploi à n'importe quelle condition. Donc précisément, des gens qui ont fait carrière toute leur vie, laborieusement, qui ont gagné une petite pitance et qui maintenant devraient renoncer à tout pour prendre un emploi aux conditions dégradées, c'est l'objectif.
Ouais.
Donc, mais c'est quand même une sérieuse gabegie intellectuelle, une certaine arnaque conceptuelle de leur part. Non, à la base... Ce qui existait, c'était le cumul d'une partie des indemnités avec le salaire. C'est-à-dire qu'on était en mesure, quand on reprenait un travail, de continuer à percevoir une petite partie de ces indemnités. Donc c'était précisément pour encourager à reprendre un emploi. Maintenant, ça a été supprimé sous prétexte que, mais globalement, personne de sérieux ne peut dire qu'on touche plus au chômage que sans son chômage, à moins... d'accepter un poste moins 10 ans par rapport à la carrière qu'on a eue auparavant.
Alors quand même, il y a cette histoire de réforme d'activité, puisqu'elle est censée concerner 90 000 personnes supplémentaires en emploi, avec donc la réforme sur plus de 6 millions d'inscrits à France Travail, soit 1,5% des demandeurs et demandeuses d'emploi actuels. Donc c'est rien, quoi. C'est quasiment... c'est pas grand-chose, en fait. Cette réforme d'activité... Sur la réforme d'activité.
En plus, il y a une autre démarche essentielle dans cette réforme qui va nous arriver, c'est aussi la réforme de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Oui.
Voilà. Et donc là, pour le coup, l'objectif de cette réforme aussi, de 2024, c'est d'arriver en faisant pression sur les demandeurs d'emploi pour qu'ils acceptent des offres d'emploi de plus en plus dégradées, puisqu'il y a aussi tout le sketch des offres non pourvues, qui est un des arguments phares du gouvernement pour expliquer que de l'emploi, il y en a, il suffit de traverser la route. Et là, en fait, c'est le principe des chaises musicales. C'est-à-dire que ce type de réforme, avec les nouvelles contraintes qui vont peser sur les bénéficiaires du RSA et leurs familles, puisque les 15 heures d'activité, ça concerne le bénéficiaire et tous ceux qui vivent sous le même toit.
Non, mais oui,
mais on n'est pas prêt. Psychologiquement, on n'est pas prêt à l'aberration de ce type de loi. C'est incroyable.
Non, mais déjà, de toute manière, faire bosser des gens qui sont au RSA 15 heures, ça paraît quand même déjà vraiment un gros délire, quoi. Ça fait vraiment penser au travail obligatoire. Ça fait vraiment bizarre, quoi. Surtout que, bon, on se demande quel type d'emploi, vu qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, puisqu'il y a 5 millions et quelques de chômeurs, comme tu viens de le dire. Donc, du coup, quel type d'emploi, des emplois normalement qui devraient être pourvus par des travailleurs, salariés, etc.
Alors,
donc là, on est quand même dans un truc hyper compliqué. Quoi.
Alors, je vais y revenir juste après, mais c'est vrai qu'il y a un jeu de chaises musicales. Des gens qualifiés vont devoir accepter des postes qui ne sont pas qualifiés ou moins qualifiés. Mais par contre, effectivement, ces gens qualifiés, c'est des gens qui touchaient le chômage. Et donc, ils vont prendre les postes qui auraient pu revenir, par exemple, à des bénéficiaires du RSA. Mais il va rester globalement donc, sur le carreau que les bénéficiaires du RSA. Donc, on va pouvoir effectivement imposer n'importe quoi à des gens qui touchaient l'indemnité chômage, donc les virer du chômage et garder une grosse masse, une armée de réserve à travers les bénéficiaires du RSA, donc soumis en plus à des injonctions, à une culpabilisation, etc. Et c'est vrai que... faut se souvenir qu'au début, quand ils avaient évoqué les 15 heures d'activité, ils parlaient vraiment de travail. Ils ont rétro-pédalé depuis. Ils ont parlé d'un accompagnement renforcé. Mais au début, soyons très très clairs, si on revient sur les déclarations du gouvernement, on parlait bien de travail. Mais alors, dans ces cas-là, Je veux dire, en tant que conseiller France Travail, qui est embauché à la NPE, je le rappelle, en tant que conseiller France Travail, je veux dire, si on a du travail à offrir aux bénéficiaires du RSA, mais on, pourquoi n'en fait-on pas du travail rémunéré par un salaire ? Donc oui. c'est surréaliste. Mais alors, pour le coup, en plus, parce que on sait très bien que tout ça, c'est aussi l'opportunité pour certaines catégories sociales privilégiées de développer une nouvelle forme de domesticité. Et il y a des conseils départementaux dans certains coins de la France. On ne va pas discriminer nos camarades en région, mais dans certains coins de la France, qui avaient trouvé tout à fait pertinent l'idée de pouvoir utiliser ces 15 heures d'activité pour leur faire tondre les pelouses, par exemple, ou des petits travaux à la maison. Enfin, c'est quand même très bien de se rendre utile aussi.
C'est une manière de se resocialiser, de remettre un pied dans le monde du travail quand même.
Il y avait bien une situation de domesticité, effectivement.
Il y avait aussi la promesse qui n'a pas été tenue, c'est-à-dire que si le chômage augmentait, eh bien, on augmentait aussi la protection des chômeurs et chômeuses. Et si le chômage diminuait, eh bien, du coup, on leur diminuait aussi leurs droits. Quoi. Donc, ça aussi, c'est un peu...
Ça c'était vraiment la manière de faire passer la pilule. Quoi. Ouais. Mais alors, ça ne tient pas. Quoi.
Alors, ils appelaient ça donc la contracyclicité.
Ouais.
Et l'idée, c'était... Et du SOPT l'avait déclaré cœur sur la main.
Le ministre du Travail de l'époque.
Main sur le cœur. Et qui disait, effectivement, on baisse les allocations chômage si le chômage baisse. Ce sera évidemment l'opportunité de pouvoir augmenter les allocations chômage si le chômage revenait à augmenter. Et effectivement, 2 ans plus tard, Catherine Vautrin nous explique que précisément c'est parce que le chômage augmente qu'il faut absolument baisser les allocations chômage. Alors d'une part, ça montre l'hypocrisie totale du gouvernement, le mépris qu'ils ont à pouvoir avancer l'un ou l'autre argument sans que ça leur pose le moindre problème. Enfin, j'espère que Catherine Vautrin est autant au courant que nous des déclarations de son confrère d'il y a 2 ans. À moins qu'il y ait vraiment là, il y ait une forme d'incompétence généralisée. Mais,
c'est possible. Alors, c'est
entre
possible.
Incompétence et volonté de nuire, effectivement, peut-être est-ce un savant mélange. Mais on voit bien l'hypocrisie totale dans leur manière d'envisager, organiser les réformes. Donc forcément, ça nous invite à réfléchir à autre chose. Si cette histoire de contracyclicité n'est que du vent, et que tout le monde, encore une fois, il faut vraiment se retrouver avec des éditocrates, des mauvaises stations de radio pour entendre effectivement que cette réforme, c'est du bon sens parce qu'il faut remettre ces feignasses au travail. Il n'y a pas un économiste en mesure de pouvoir appuyer.
Alors justement, par rapport à ce que tu dis, il y a quand même eu, suite à ces réformes qui, maintenant ont quand même 1, 2, 3 ans, donc on aurait pu penser que des évaluations auraient été faites, hein, et puis, du coup, remettre les choses, évaluer un petit peu les conséquences, l'argent gagné, mis de côté, est-ce que ça a aidé, pas aidé, et il n'y a aucune évaluation faite par rapport aux précédentes réformes.
Alors, disons que le gouvernement ne publie pas spécialement. L'OFCE, avec Bruno Coquet, avait fait un bilan des 2 précédentes réformes. Encore une fois, on l'évoquait, la DGEFP et la DARES.
Ah ouais, les sigles, s'il te plaît.
Alors, Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Et la DARES, c'est la Direction des Études Statistiques. Donc avait été sollicité en disant c'est une très mauvaise idée, mais le ministère du Travail, je crois, on cite souvent ce commentaire du ministère qui disait la réforme serait peu opportune. Là on est dans entre litote et euphémisme. En tout cas, il y avait quelques signes qui permettaient de pouvoir faire comprendre au gouvernement que les spécialistes n'étaient pas convaincus des effets bénéfiques pour l'emploi et l'économie de ce type de réforme. Et pourtant, ils y vont. Ils y vont, et donc ça doit nous interroger. Et c'est pour ça que il faut recontextualiser.
Alors, avant de recontextualiser, parce que c'est vachement important, j'avais juste envie qu'on revienne un tout petit peu sur ces déficits de l'UNEDIC, puisque il y a effectivement une dette récurrente, qui est là depuis hyper longtemps, mais elle a été hyper aggravée par le Covid. Donc c'est important aussi de le mentionner, quoi, de dire que ce trou, il a été fait notamment par ce Macron Il avait une petite phrase là qui coûte. Bah, bref. ça va nous revenir.
Et le quoi qu'il en coûte.
Le quoi qu'il en coûte, merci. C'est surtout sur nos épaules, à nous les chômeurs, les pauvres, les travailleurs pauvres, les précaires, que ça nous a coûté beaucoup. Et donc, du coup, ça a creusé. C'est notamment cette période-là.
D'autant que, rappelez-vous, il avait investi des dizaines de milliards dans des entreprises florissantes. Tout simplement pour compenser un petit peu les problématiques liées au Covid. Alors que derrière, on en profite. Et à l'époque, certains étaient satisfaits de cette forme de keynésianisme. Bon, on n'était pas dupes. On savait très bien que ces dizaines de milliards qui allaient dans la poche des plus riches allaient de toute façon justifier derrière une nouvelle étape dans la casse des organismes sociaux et des services publics. Et ça ne manque pas. Effectivement, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce déficit. Mais déjà, on en parlait tout à l'heure, le déficit de l'UNEDIC, c'est aussi le déficit de l'État, puisqu'on utilise les recettes de l'UNEDIC sur d'autres postes que l'indemnisation des chômeurs. Ensuite, depuis la création de l'assurance chômage, dès qu'il y a eu des problèmes et dès que le rapport de force n'était pas en notre faveur, à chaque fois, on avait une baisse des cotisations patronales, on avait une baisse de la part des cotisations patronales. Donc, on avait effectivement tout un ensemble d'exonérations du patronat à assumer ses responsabilités à l'égard du chômage. Parce que on le sait, depuis les années 90, plus le chômage se massifie, plus c'est la preuve évidente que c'est le chômeur qui est responsable du chômage, pas le système économique. Quand on monte à 6...
C'est évident.
Non, mais bien, il faut arrêter 2 minutes, quoi. Donc, quand on monte à autant de millions de chômeurs, c'est forcément de la faute du chômeur, pas du patron, pas de l'employeur, et surtout pas du système économique, du capitalisme, ce genre de choses. Donc, depuis les années 90... Au moment précisément où la CFDT reprenait la direction de l'UNEDIC s'enthousiasmait à rappeler effectivement la culpabilité du chômeur dans sa situation. Donc on est ravis qu'en ce moment, il s'énerve un petit peu à l'égard de la réforme.
Mais doucement.
Non, mais poliment. On se souvient des retraites.
Verbalement, quoi.
Ça a été une vraie mobilisation extrêmement polissée. Et ça, c'est important. Un peu de civilisation. Et donc, effectivement, on avait commencé... On a toujours fait en sorte de minimiser la responsabilité du patronat. Si on voulait réellement réabonder les caisses de l'UNEDIC, il suffit d'augmenter de quelques points les cotisations employeurs. Et ça pourrait aller assez vite. Il faut être lucide là-dessus.
Et puis, il y a quand même les socialistes, avant de partir, ils ont quand même créé le CICE, c'est le Crédit Emploi Impôt Compétitivité quand même.
Alors, oui. Alors, là, Joël, on rentre dans... On finissons là-dessus, mais si on veut effectivement aussi trouver des solutions en général, il faut toujours rappeler que de toute façon, sur un budget de l'État de 400 milliards, on a effectivement une exonération de cotisations sociales de plus de 70 milliards, avec aussi des crédits impôts de plus de 70 milliards, et le CICE rentre là-dedans. Donc on a dans la nature 150 milliards de crédits d'exonération fiscale aux entreprises et d'exonération sociale, plus 50 milliards d'exonération et de niche fiscale pour les plus grandes fortunes.
Assez rapidement, on pourrait aller trouver l'argent qui manque.
On a globalement 200 milliards dans la poche des patrons.
Qui
sont exonérés sur un budget de l'État de 400 milliards, sur lequel on paye des intérêts chaque année de 100 milliards. C'est-à-dire que quand vous payez vos impôts, il y a un quart qui va effectivement dans la poche des marchés financiers. Alors qu'il y en a 200 milliards qui reviennent directement dans la poche du patronat. Donc, de l'argent, il y en a.
Non, on sait où.
Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, il y a quelque chose de très politique dans le déficit de l'UNEDIC. Mais, d'une part...
Moi, je voulais faire une petite pause, tranquille. Voilà. On fait une petite pause musicale. Et après, on aborde cette question que tu as... Enfin, je vois, tu es très... Nous aussi, d'ailleurs, sur la question du contexte.
Le contexte. Alors,
puisqu'on se rend compte que ce n'est pas financier, ce sera forcément idéologique. Et on va en discuter. Quel projet politique idéologique sous-tend ces nouvelles réformes ?
Les macronistes sont dans la place ! Sur les plateaux de BFM, comme un peu partout sur les ondes,
Les nouvelles en France sont les mêmes. Paraît que la révolte gronde.
Que toute la gauche bat le pavé. Même le PS est dans la rue. Longtemps que c'était pas arrivé. Olivier Faure est tout perdu.
Mais à Matignon, à l'Elysée, on lâche rien, on reste debout. Hasta Marlène Schiappa siempre. Oui, on se battra jusqu'au bout.
Que les gauchos viennent nous chercher. Gare à toi, Philippe Martinez. On est courageusement cachés derrière les cordons de CRS.
On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est pas trois Gaulois réfractaires qui vont nous faire la leçon.
D'après les chiffres du ministère, en fait c'est plutôt 3 millions.
Mais même contre la France entière, c'est nous tout seuls qu'on a raison.
On lâchera rien, pas un copec, pas une année de cotisation.
D'abord si t'aimes pas notre loi, c'est que tu n'as pas bien compris. Heureusement on est les rois pour ce qui est de la pédagogie.
Les sondages donnaient en janvier 55% d'opposants. On retourne tous à la télé, ça passe à 80%.
On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Le 7 mars on bloque le pays et on brûle des portraits de Macron.
Merde, ça c'est un trac de les filles que j'ai pris sans faire attention.
Macronistes de tous les pays, unissons-nous contre ces despotes.
Bon, on est 14 et demi. Mais on a Olivier Dussopt.
Tous solidaires avec nos frères, les PDG du CAC 40.
Solidarité avec Patrick Pouyanet. Solidarité avec Vincent Bolloré.
On est là, on est là. Même si Ruffin ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des actionnaires et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires. Même si Ruffin ne veut pas, nous on est là.
CGT, t'es foutu.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
Ah, mais je crois qu'on est dans l'impasse, là.
Ouais. Ah, et puis on est que quatre, là, hein, en fait, hein. Bon, ouais.
On se fait un brunch ?
Ah non, non, moi j'ai un conf call, là, désolé.
En revanche, les loulous, hein, on se fait un débrief à ça.
Et aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle réforme de l'assurance chômage avec François, du syndicat FSU Emploi.
Voilà, donc on en était, et tu veux... Ah oui, tu voulais finir.
On en était sur, donc, enfin... On se posait la question de savoir s'il y avait vraiment un déficit. Oui, il y a un déficit. Le déficit est politique dans les caisses de l'UNEDIC. Mmh. Hein. Mais c'est vrai que ça nous permet aussi de comprendre un petit peu la stratégie du gouvernement. Puisqu'il faut savoir que l'UNEDIC, c'était la manifestation aussi de la démocratie sociale mise en place par les travailleurs après-guerre, ouais. Donc indépendante de l'État. Hein, donc basé sur les cotisations sociales et non pas sur l'impôt, donc appuyé sur le travail qui, comme la sécurité sociale, était une manière de récupérer une partie de la plus-value produite pour la mettre au service des travailleurs. Et pour l'assurance chômage, pour effectivement arracher le travailleur à l'arbitraire du travail, du patronat et du capitalisme, du marché du travail. Et tout le système s'appuie sur les cotisations sociales. Et c'est vrai qu'il faut se souvenir qu'en 2017, déjà, la première attaque contre le système, c'était le gouvernement qui abolissait les cotisations sociales employées, salariées, et qui les remplaçait par un impôt déguisé, la CSG. Donc là, pour le coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, une partie des recettes de l'UNEDIC ne sont plus le travail et les cotisations sur le travail des salariés, mais un impôt sous tutelle de l'État. Mmh. Hein. Et ça, c'est un des éléments essentiels, car maintenant, effectivement, progressivement, le gouvernement a mis la main, d'une part, sur le budget de l'UNEDIC par rapport donc à l'abolition des cotisations salariées, et ensuite par des lettres de cadrage qui pouvaient effectivement dire aux partenaires sociaux, vous n'arrivez pas à reconnaître les éléments impératifs dans la lettre de cadrage que nous avons remis. Donc, dans ces cas-là, ça justifie qu'on reprenne la main. Et c'est comme ça qu'on est passé de conventions des partenaires sociaux à des décrets unilatéraux du gouvernement. Et ça s'inscrit aussi dans la loi Plein Emploi. Alors, le projet Plein Emploi, dans le projet Plein Emploi, on avait différents éléments. On avait les retraites. On avait la formation professionnelle, l'apprentissage, le RSA, on avait France Travail et les allocations chômage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que globalement, l'objectif, c'était, et c'est toujours, de saturer le marché du travail. Hein, l'objectif, ça n'est pas spécialement de penser à long terme sur la reconstruction du marché du travail, c'est de satisfaire les besoins immédiats du patronat en saturant le marché du travail, mais à moindre coût. C'est-à-dire que remplacer la formation professionnelle initiale par de l'apprentissage, c'est donner au patron une main-d'œuvre docile et mal payée. Repousser le départ à la retraite, c'est continuer à saturer le marché du travail et donc de mettre en concurrence les salariés. Et tout ça va dans ce sens-là.
Carrément, parce qu'il y a effectivement les apprentis. On a vu la réforme des lycées professionnels qui permet de faire travailler des mômes
d'avoir une forme de main d'œuvre.
Carrément, parce qu'on le voit bien, on s'est rendu compte même sur Carrefour, 2000 licenciements, 2000 apprentis qui déboulent. Donc on voit tout de suite l'intérêt de ces grandes entreprises. Donc il y a les apprentis, il y a le RSA maintenant, les RSistes. Qui vont aussi remplir ce marché du travail de précaires mal payés ou pas payés, etc. Donc là, on est vraiment dans cette logique-là.
Et elle est arrivée précisément à un moment où les carences sur certains secteurs, tels que le BTP, la restauration, l'aide à domicile, donc des secteurs qui embauchent, des secteurs qui ont besoin d'embaucher, ces carences en main-d'œuvre risquaient d'imposer au patron de négocier sur les conditions d'embauche et les conditions de travail. Et ça, pour le gouvernement, c'est trop demandé. Pour le gouvernement, ça aurait été une remise en cause complète de leur perspective de casser toute forme de capacité pour les travailleurs à faire valoir leurs droits. Et donc là, l'idée, c'est de saturer le marché du travail pour éviter toute forme de négociation concernant les conditions d'embauche. Et c'est là qu'on voit bien que le projet Plein Emploi et que l'ensemble des éléments, à savoir apprentissage, formation professionnelle, retraite, France Travail, allocation chômage, toutes sont articulées de manière très stratégique.
Et je mettrai même dans le blot, là, toutes les réformes sur le monde du travail, la question des négociations, c'est tout ça aussi, parce qu'on se rend compte, là, ces derniers temps, que même négocier une petite hausse de salaire, ça devient complètement dingue. C'est un mois de grève, avec même pas sûr au bout de gagner quoi que ce soit. Il n'y a plus d'instance de négociation possible, de discussion avec le patronat. Il y a vraiment une volonté de casser tout les formes d'organisation. Là, on voit bien les syndicalistes qui sont réprimés. Donc, il y a une volonté aussi de rendre impossible ou très compliqué, de plus en plus difficile en tous les cas, toute forme d'amélioration des conditions de travail, de salaire, etc.
On avait les lois travail,
c'est ça.
El Khomri. On avait les lois travail Macron. On avait aussi derrière les lois Rebsamen, quelque part, puisque le fait de fragiliser la capacité pour les salariés à s'organiser au sein des instances représentatives du personnel participe à tout ça. Alors, ils sont à ce niveau-là très très bons. Ils arrivent progressivement à détricoter l'ensemble des protections sociales, toujours dans le même objectif de saturer complètement le marché du travail. Et là, on comprend mieux l'objectif de la réforme sur l'assurance chômage. L'objectif, c'est de continuer à faire en sorte que les patrons puissent embaucher sur des conditions de travail qui seront décidées unilatéralement et qui peuvent être très mauvaises. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de remettre tout le monde au travail. Mais d'ailleurs, le modèle, il existe depuis très longtemps. Ce modèle, c'est celui qu'on suivit l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, avec effectivement des consignes qui remontent jusqu'au traité de Lisbonne en 2000. C'était la fameuse stratégie économique européenne, hein, avec l'OCDE qui, tous les deux ans, publiait des petits rapports en direction des gouvernements pour leur apprendre comment déréglementer, déréguler et déconstruire les services publics. Mmh. Hein, et donc, on a des modèles. Et ce modèle, alors, on a aussi une projection. Les gens travaillent, certes, travaillent de manière extrêmement précaire, avec des taux de paupérisation qui explosent dans chacun des pays. Donc là, effectivement, on est prêt pour déconstruire, pour détricoter, déconstruire les organismes sociaux, les services publics et les conquêtes sociales. On est prêt à paupériser globalement la population. C'est l'objectif.
Oui, parce qu'il y avait...
Vas-y, Jojo.
Oui, parce qu'il y avait une espèce de truc comme ça où la France était encore le dernier pays où il y avait une protection sociale très avancée, très avancée, tout ça. Et puis, il faut mettre tout le monde au même niveau, mais vers le bas, quoi. C'est toujours un peu la problématique.
Et juste, je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Tu dis remettre tout le monde au travail. Je ne pense pas que ce soit ça, puisqu'on sait que le travail, il existe de moins en moins. Et avec la numérisation du travail, il existera encore moins de travail. Hein. Mais c'est plutôt, effectivement, de faire en sorte que tout le monde soit précaire et de moins en moins de couverture sociale et de possibilité de vivre tout simplement pour pouvoir c'est toujours l'armée de réserve
dire
plus t'es nombreux et plus tout baisse et permettre de faire travailler les gens pour un moindre coût comme d'habitude quoi. Donc on est là-dedans et ça s'accélère à une vitesse incroyable hein, parce que là on a vu le rythme des réformes qui se sont ces dernières années mais accélérer incroyablement.
Et ce n'est pas fini, puisqu'on prévoit une prochaine loi travail.
Ah, il y en a une sous le coude.
Oui, une prochaine loi travail. Alors, pour l'instant, c'est des considérations assez fumeuses. Ils parlent même de la semaine de 4 jours. Bon, on sait très bien que l'objectif va être, encore une fois, tel que c'est écrit dans tous les petits opuscules de l'OCDE, encore une fois, tel que ça avait déjà été évoqué dès la stratégie économique européenne en 2000, l'idée, c'est de favoriser l'employabilité et de lever les freins à l'embauche. Mmh. Ouais, et ça, c'est bien écrit. Après, quand vous allez dans les lignes, ça veut dire détruire l'assurance chômage, parce que l'assurance chômage, ça pousse les gens à ne pas travailler. On est quand même sur des logiques assez... assez liminaire hein, de la part de ces institutions et derrière de favoriser au maximum tout ce qui peut permettre d'embaucher. Les lois travail, l'objectif, c'est de pouvoir plus facilement se débarrasser d'un employé. Donc, précisément, c'était pour fluidifier les embauches, mais derrière, c'était pour pouvoir plus facilement mettre les salariés en concurrence les uns avec les autres et donc éviter toute négociation sur des conditions de travail inacceptables. Tout va dans le même sens.
Et casser, parce que c'est vachement important, c'est casser aussi toutes les possibilités d'organisation, d'auto-organisation des travailleurs. Parce qu'à partir du moment où on a des travailleurs qui ont tous des contrats complètement différents et il n'y a pas de possibilité d'auto-organisation, que ce soit de lieu, d'instance, hein, puisqu'il y avait les instances hygiène, etc.
CHSCT.
Qui permettaient quand même de pouvoir freiner à des moments les velléités des patrons. En cassant toutes ces instances et ces possibilités d'auto-organisation, ça fragilise aussi le monde des travailleurs.
Alors oui, on l'évoquait déjà avec les lois Rebsamen, mais alors, on sait très bien que les instances n'avaient de puissance, de capacité de rapport de force qu'en fonction de la mobilisation des salariés.
Bien sûr. Hein
Et pareil, la mobilisation des salariés pouvait voir dans les instances un intermédiaire dans la capacité à défendre et à faire aboutir leurs revendications. Et c'est vrai que là, on peut remonter encore un peu plus loin, puisqu'on sait très bien que jusque dans les années 70, il y avait une mobilisation et une conflictualité qui ne cessait d'augmenter. Hein, depuis 1860, on s'était promis de ne pas remonter avant 2000, mais entre 1860 et 1975, il y avait une montée de la conflictualité.
Ouais.
Plusieurs fois, le capitalisme avait été sur le point de s'effondrer. Et ça, les patrons le savaient très bien. 68 a été une peur bleue pour le patronat français. Et ce qui est très intéressant dans ces cas-là, c'est que quel est le meilleur moyen pour arriver à briser les mobilisations des salariés et donc à rendre obsolètes les instances, ça a été le chômage de masse. Tu parlais effectivement de l'incapacité pour les travailleurs de s'organiser. Et effectivement, la réorganisation du travail avec la désindustrialisation et le chômage de masse a brisé les perspectives de mobilisation. Et c'est pour ça que, tranquillement, jusqu'aux lois Rebsamen, Il faut dire effectivement que avec la baisse des mobilisations, la baisse de la conflictualité, il restait dans les instances représentatives du personnel, par exemple les CHSCT, qui avaient réellement un pouvoir.
Petit pouvoir, ouais, un pouvoir.
Et l'objectif des lois Rebsamen, c'est précisément de rendre incompétents en tant que personne morale les CHSCT, qui sont devenus des commissions dépendantes des CSE. Donc avec des surcharges de travail, une incapacité à pouvoir effectivement aborder les sujets, avec une verticalité des instances, alors qu'avant, il y avait une complémentarité et une horizontalité. Mais effectivement, là, dans les grandes conventions syndicales, on va dire, on se rend compte que tout le système étant rendu obsolète, il nous reste le droit. Et c'est vrai que maintenant, il y a une consigne très partagée hein, dans les petites sauteries du MEDEF, c'est de faire en sorte de mettre en échec, en les attaquant devant les tribunaux, toute demande d'expertise, d'enquête ou de droit d'alerte. Hein, pareil, c'est des modes de fonctionnement qui sont très largement partagés par l'ensemble du patronat.
Ça, c'est vraiment une question aussi qui est très intéressante. Il faudrait qu'on creuse de toute manière lors de nos émissions. Mais se référer continuellement au droit, c'est-à-dire à l'État, finalement, puisque l'institution...
À la justice bourgeoise.
Mais tout à fait. Qui défend-elle la justice ? Non, mais bon, tu vois, après, il y a des slogans comme ça, justice bourgeoise, etc. Mais ça n'empêche que c'est le cas. Et demander à une justice qui défend les intérêts des patron de nous défendre, c'est toujours, bon, il y a des fois ça marche un petit peu, ça freine, ça bon, etc. Mais c'est toujours délicat de rester dans ce cadre qui nous est imposé finalement par l'État et dans lequel on s'englue au bout d'un moment. Quoi.
On va être très clair, le fait de constater que le recours au droit devient la seule possibilité faire valoir les revendications ou même d'éviter la mise en pièces des droits des salariés, c'est un aveu d'échec. Ça c'est évident, mais de toute façon on va se le dire,
la
période actuelle ne prête pas à rire, même si je viendrai canner. Donc pour le coup effectivement on est dans une situation comme celle-là, et là c'est la possibilité, là il y a une autoroute pour le gouvernement pour avancer. Par contre ce qui est intéressant c'est que on voit un gouvernement, on le redit parce que c'est très important, hein, un gouvernement qui pour mettre en pièce idéologiquement la démocratie sociale qui était opérationnelle, parce que ça, il faut le rappeler, je fais une petite digression, mais l'assurance chômage, en plus d'être la manifestation comme la sécurité sociale des conquêtes sociales qui avaient réussi à organiser des caisses indépendantes de l'État hein, et qui étaient donc
gérées par
les salariés. Entre autres, ouais. On se rappelle que la sécurité sociale, à la base, le conseil d'administration de la sécurité sociale était élu. Et que dans les négociations, c'était 80% pour les syndicats, 20% pour les patrons. Donc il y avait vraiment une masse monétaire gigantesque. Et d'ailleurs, le patronat avait dit juste après-guerre en disant « Allez-y, on verra ». Et effectivement, le mouvement ouvrier avait réussi à s'emparer. Et c'était une prodigieuse victoire. Par contre, effectivement, et on a par exemple un cher Bernard Friot qui n'arrête pas de nous le rappeler, que précisément on a dans les cotisations sociales les perspectives révolutionnaires. Mais ça, à ce niveau-là, on ne peut que lui accorder. Et c'est vrai que pour le patronat, ça a toujours été une épine dans le pied, une véritable épine dans le pied.
Mais on rappelle aussi quand même que cet argent, c'est l'argent des travailleurs.
Mais
parce que c'est important de le dire, parce qu'on a l'impression genre que, je ne sais pas quoi, que ce serait normal que ce soit les patrons qui les gèrent, ou l'État maintenant, alors que c'est une partie de nos salaires.
Alors, on va être très clair, hein. Il y a aussi ce fameux discours du patronat ou des gouvernements qui nous explique que le travail coûte cher.
Ouais.
Le travail coûte cher au patronat. C'est intéressant, ça. Donc, alors, là, il faut le rappeler, et là, je pense qu'on est tous d'accord, le travail ne coûte pas cher au capital. C'est le capital qui coûte cher au travail. Donc, quand on nous parle des cotisations employeurs ou des cotisations salariés, tout ça, c'est des cotisations sur la valeur produite par les travailleurs. Oui, en plus, on parle de charges.
Charges, c'est horrible.
Et donc, effectivement... là il y a dans les réformes du gouvernement le choix de se débarrasser de ces structures qui avaient une fonction aussi économique, c'est-à-dire que l'assurance chômage, en plus d'être la manifestation de la démocratie sociale et de la victoire du mouvement ouvrier, c'était aussi la possibilité de maintenir le niveau de qualification des personnes au chômage, hein, et derrière de maintenir un niveau de vie, donc de permettre aussi de continuer à consommer. Donc les fonctions économiques de l'assurance chômage étaient réelles, hein. Et donc là on a un gouvernement qui est prêt d'une part à paupériser une grosse partie de la population, mais aussi à déqualifier une grosse partie de la population. Hein, donc, de leur faire perdre des qualifications massives. Donc là, il y a ce choix de paupériser et de déqualifier tout ça pour pouvoir répondre à la lubie du patronat qui serait de se débarrasser de ces caisses de cotisations sociales. On en est là. Donc là, il y a peut-être une fois, un petit peu comme quand on parlait de la vaste tertiarisation de la France, hein, qui a effectivement entraîné une subordination économique à l'Allemagne, et derrière, bah, une situation économique de plus en plus marasmatique. C'est très intéressant. En fait, on est prêt, le patronat et le gouvernement sont prêts eux-mêmes à se tirer une balle dans le pied si c'est pour servir leur perspective idéologique. On en est là.
Alors, on parlait du mouvement sur la réforme des retraites l'année dernière, et il semblerait que le gouvernement pense aux vieux travailleurs, aux vieilles travailleuses aussi, puisqu'il veut créer un bonus emploi senior. Donc en gros, ça consiste à compléter le revenu d'un senior qui aurait pris un emploi à un salaire inférieur à celui qu'il avait pour ouvrir des droits. Mais cela pendant un an. Il ne faut pas non plus déconner.
Je ne sais pas comment il va faire.
Qu'est-ce que ça dit, ça, justement, cette histoire de bonus emploi senior ?
Alors, ça en dit quelque chose de formidable. C'est que là aussi, entre incompétence ou volonté de nuire...
On ne sait pas.
Hein, sûrement un savant mélange.
Un peu les deux.
Mais
c'est-à-dire, juste, je te fais une petite coupure, ne perds pas du tout ce que tu voulais dire. C'est qu'en fait, ces gens-là sont tellement loin des réalités sociales. Ils vivent tellement dans leur bulle que d'abord, il y a un mépris de classe complètement, mais incroyable qui existe. Et j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas du tout compte de, je ne sais pas ce que c'est que de vivre avec 1000 euros ou 800 euros par mois. C'est hors champ intellectuel pour eux, quoi.
Mais je crois d'ailleurs que Macron l'avait reconnu lors d'une interview en disant que c'est vrai qu'il avait compris, il avait appris la réalité.
Et tous les gens qui sont dans les administrations aujourd'hui, qui sont des cadres, hein, ils sont dans des, enfin voilà, ils ont des salaires, des conditions de vie qui n'ont rien à voir avec les nôtres.
Après, le bonus emploi, c'est par exemple un senior qui toucherait moins que son ancien emploi se verrait compensé jusqu'à son dernier emploi.
Voilà.
Donc ça pourrait être intéressant. Pourquoi Sauf pas. Qu'on sait très bien, en fait, on sait très bien, surtout, que ça va générer ce qu'on appelle des effets d'aubaine. C'est-à-dire que nous, à France Travail, et depuis la NPE, on connaît ces histoires d'effets d'aubaine. C'est-à-dire que quand vous exonérez fiscalement et socialement un patron, s'il embauche au SMIC, qu'est-ce qu'il fait le patron ?
Il embauche au SMIC.
Mais il embauche au SMIC.
Ah oui.
Donc
ça
appauvrit.
Pour ça, il y a presque que du SMIC.
Ça appauvrit tout le monde, tout d'un coup. Mais en plus, c'est pas forcément de l'incompétence, parce que c'est super, c'est un cadeau fait au patronat. Exonéré socialement et fiscalement, mais financé en plus par l'État, hein, c'est-à-dire par vos impôts. C'est super, l'économie circulaire. Donc là, effectivement, tous ceux qui sont censés s'en mettre, plein les fouilles. Et donc là, pour le coup, avec le bonus emploi des seniors, bah, précisément, on va avoir la même chose. C'est-à-dire que ça va faire pression, là aussi, sur les salaires, puisque les seniors vont être invités à prendre des emplois moins bien rémunérés. Donc déjà, première prime pour le patron. Et en plus, c'est sur l'assurance chômage qu'on va financer ce retour à l'embauche.
Forcément.
Et donc, déjà, c'est la double peine pour nous et le double bonus pour le patron. Et derrière, effectivement, ça va généraliser l'idée. C'est ça qu'on appelle l'effet d'aubaine. C'est-à-dire, le patronat, maintenant, va se féliciter de pouvoir proposer des postes moins bien rémunérés que ce que le marché du travail pourrait permettre, puisqu'il est compensé par les cotisations sociales.
Alors, il semblerait que le gouvernement, là, essaye un petit peu de tergiverser, puisqu'il devait y avoir un rapprochement entre les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité et du RSA, donc revenu de solidarité active. Et donc, le 3 juin dernier, donc, la ministre, donc Catherine Vautrin, donc, disait, en recevant des associations, que la suppression de l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, n'était pas à l'ordre du jour. Avant d'ajouter, nous ne travaillons pas dessus actuellement parce que ça va être un peu la grosse réforme de l'année prochaine, c'est-à-dire ce rapprochement. Et signaler aussi que si jamais c'était rapproché avec effectivement l'ASS et le RSA, ça veut dire que les gens qui étaient en allocation adultes handicapés ne pouvaient pas cumuler parce que là, ils peuvent cumuler l'ASS et l'allocation adultes handicapés. Donc, est-ce que c'est un recul tactique ?
Bon. Alors, recul tactique, c'est évident. De toute façon, maintenant qu'on a mieux discerné les stratégies du gouvernement, malgré ces réformes qui paraissent contre-productives, qui au final ne le sont pas.
Ah non, pas tout, pour tout eux. Dépend, voilà. C'est dépend, clair, on l'a vu.
Une fois qu'on comprend effectivement l'objectif. Le but de supprimer la SS, c'est précisément donc, de supprimer une allocation qui était plus favorable que le RSA. On touchait un peu moins, mais on continuait à cotiser à la retraite. Mmh. Vous imaginez, avec ces feignasses de chômeurs, l'appel d'air est évident que ça pouvait générer.
À 500 balles par mois, c'est...
L'idée, c'est de pouvoir les mettre dans la... En plus, des gens qui on ne pouvait toucher la SS que sous certaines conditions. Il fallait avoir travaillé, etc. Donc, il y avait une forme de statut. Et donc, maintenant, on veut bien leur rappeler qu'ils n'auront pas d'autre statut que celui du RSA, qui est en train de se brutaliser, on l'a vu, de manière tout à fait originale. Puisque maintenant, ils seront soumis à 15 heures d'activité par semaine, quelle qu'elle soit, puisqu'ils ont rétro-pédalé en expliquant que ce serait un accompagnement soutenu. Mais on voit déjà dans la presse certains exemples où on les utilise pour des travaux d'intérêt généraux, on va dire. Donc, effectivement, l'idée, c'est de mettre tout le monde dans le même panier, de leur supprimer les quelques avantages qu'ils avaient, quelques droits plutôt, à savoir de cotiser à la retraite. Et de les mettre dans cette masse. Puisque là, encore une fois, maintenant, la consigne avec France Travail, c'est de récupérer tous les bénéficiaires du RSA. Et ça va générer de l'argent, enfin, ça va coûter de l'argent. Ça va faire double emploi avec les
parce conseils départementaux. Parce que le RSA, c'est les régions qui
le
gèrent.
Oui. C'est le conseil départemental qui accompagne et qui gère. Et donc, on va les récupérer. Et le but de les récupérer, c'est de leur rajouter une contrainte supplémentaire. Donc ça va coûter de l'argent. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on peut faire le lien peut-être, c'est que tout ça doit se faire à ISO effectif à France Travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas embaucher. On va récupérer peut-être 1 million, il y a 2 millions globalement de bénéficiaires du RSA, dont seulement 40% qui est accompagné, qui est inscrit à France Travail. Donc tout le reste, on va les intégrer. On va les intégrer, puisqu'il faut maintenant, effectivement, mettre en place des systèmes coercitifs, culpabilisants. Et on a déjà tout l'attirail. Vous m'aviez déjà invité pour qu'on puisse parler du fameux décret sur les sanctions de décembre 2018 avec cette criminalisation, cette judiciarisation du traitement des chômeurs. Donc là, tout l'appareil de criminalisation est en place. Donc on va les récupérer, mais on va devoir aussi les accompagner, mais sans embaucher. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va recourir massivement aux prestataires externes. Aux petites officines privées, avec, on le sait très bien, des conflits d'intérêts un peu partout avec les barons régionaux, avec une toile économico-politique. Tout ça va coûter très cher, mais heureusement, ce seront pour des patrons, bien vu, des responsables politiques. Il y a eu plusieurs affaires qui, effectivement, sont sorties. Elles sortent régulièrement. Moi, j'aurais largement une heure à vous raconter aberrations des prestataires.
Ce serait super, parce qu'effectivement, souvent, au niveau régional ou municipal, tu as les intérêts entre les entreprises, etc., et les politiques. C'est quand même copain-copain, c'est les mêmes. Donc,
consanguinité.
Ah là là, il va y avoir...
Tout à fait constamment.
Alors, comme il nous reste 8 minutes, Alors venons peut-être sur les perspectives.
Oui.
Alors avant de venir aux perspectives, je voulais juste dire que c'est vraiment, on vient de le voir, une attaque globale contre le monde du travail en général. On est bien d'accord.
L'objectif, c'est de faire pression sur les salaires et les salariés.
Donc c'est juste pour dire que peut-être même au niveau des perspectives et des mobilisations ou de la compréhension du phénomène, on est affligé quand même. On peut que être affligé du fait que les centrales syndicales et les centrales de travailleurs, enfin les organisations de travailleurs, ne prennent pas cette question-là à bras le corps également. Et je rajouterais même que ça regarde le service public d'une manière générale, puisqu'on voit les mêmes attaques par rapport à l'hôpital, l'éducation nationale, tout ce qui est les transports, etc., tout ce qui est service public. Donc on voit bien que c'est une politique générale, là, une logique générale qui touche l'ensemble des travailleurs et des garanties qu'ils avaient réussi à mettre en place au cours des luttes sociales de ces dernières décennies. Tu parlais d'une attaque magistrale contre entre les projets du Conseil national de la résistance, le CNR. Donc on se dit, mais pourquoi enfin enfin voilà, parce qu'on se le dit à chaque fois, mais bon, pourquoi on se met pas tous ensemble pour se battre contre cette logique qui nous touche tous, parce qu'on a vu quand même, il y a le logement social, destruction du logement social, non-construction de logements sociaux, des attaques par rapport aux sans-papiers. Enfin, là, on a vu quand même des tas d'attaques ces dernières années magistrales, énormes, concernant l'ensemble des pauvres. Hein.
D'autant que il y a des alternatives. Si on nous demande, nous, FSU Emploi, mais aussi les camarades de la CGT ou de Solidaire, on a des perspectives alternatives économiques. Ne serait-ce que la réduction du temps de travail. Ne serait-ce que l'abolition des exonérations fiscales et sociales. On a des possibilités pour relancer l'économie.
Ça fait des dizaines et des dizaines d'années.
Sans aller jusqu'à la planification démocratique ou la socialisation des moyens de production et d'échange.
Par étapes.
Déjà, la réduction du temps de travail.
Mais c'est vrai que la modernité voudrait qu'on travaille de moins en moins. C'est la logique. L'industrie, la mécanisation, la numérisation devrait quand même profiter un minimum, même si après on peut y réfléchir et pas toujours être d'accord avec tous ces progrès et cette soi-disant modernité. Mais en tous les cas, on pourrait penser que l'idée, ce serait de travailler moins, hein, c'est-à-dire 20 heures, 25 heures par semaine. Et encore, je suis peut-être...
Travailler moins pour travailler tous. C'est l'objectif de la réduction du temps de travail. Donc, il y a des solutions. Après, en termes de mobilisation... Nous, à la FSU Emploi, comme les camarades de la CGT Emploi ou de Solidaire Emploi, on travaille avec les organisations de chômeurs depuis très longtemps, depuis les premières conventions. On est dans la rue, on mobilise, on a été plus ou moins audible, on a régulièrement cherché à élargir le périmètre syndical et politique pour permettre à tous ceux qui voudraient rejoindre la défense d'une assurance chômage juste et équitable de pouvoir le faire. Après, on a évoqué tout à l'heure de toute façon une conflictualité un peu en berne, un refus des mobilisations. Alors, avec des hauts et des bas, on a eu quand même quelques grands moments de mobilisation. Mais c'est vrai que l'assurance chômage, alors même on peut le repréciser, mais le problème de l'assurance chômage, ça n'est plus un problème des chômeurs. C'est un élément clé, une pièce maîtresse dans l'organisation d'un rapport de force contre les salariés et contre le monde du travail en général. Puisque l'objectif du gouvernement, c'est de précariser l'ensemble des carrières. Tout salarié, maintenant, selon l'objectif idéologique du gouvernement, devra vivre dans la précarité, puisque c'est l'objectif de faire pression sur les salaires et c'est le moyen pour faire pression sur les salaires. Donc, effectivement, toutes les centrales syndicales et tous les mouvements politiques de gauche... fais-je entre guillemets, devrait pouvoir effectivement rejoindre cette mobilisation. Mmh. Mais vous l'avez vu, la CFDT et... Alors, rappelons que FSU, CGT et Solidaire sont depuis le début sur ces mobilisations, sont depuis le début dans la rue, tentent effectivement de mobiliser. Alors, on parle effectivement
léger,
des syndicats.
Léger quand même, hein,
on parle des syndicats, peut-être pas des confédérations.
Là, quand même, on a vu ces derniers temps les mobilisations de chômeurs, ça regroupe
C'est pour ça que je parle de la présence de certaines organisations syndicales de ces trois organisations. D'ailleurs, effectivement, c'était nous qui étions à l'assaut sur la suspension de l'assurance chômage devant le Conseil d'État entre 2019 et 2021. Maintenant, effectivement, force est de constater que les mobilisations sur l'assurance chômage sont en train même de décliner, puisqu'on peut évoquer ces fameuses marches contre le chômage et la précarité de décembre, qui sont passées de 3000 manifestants à maintenant quelques rassemblements un peu partout en France. Il y a un vrai problème. Mais plus le chômage augmente et moins les mobilisations sont faciles, puisque le chômeur, de toute façon, ne se considère pas comme chômeur et il est isolé. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là et on doit effectivement continuer à y travailler.
Alors c'est sur ce qu'on va conclure.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher, On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.